votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient comme tous les jours. RFI vous donne la parole dans 30 minutes. Vous pourrez commenter l'actualité de votre choix. Nous sommes vendredi. Vous connaissez le principe. C'est la libre antenne. Vous revenez sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine dans l'actualité française, africaine, internationale. Tous les sujets nous intéressent. Donc rejoignez-nous. Venez lancer le débat en direct sur RFI. 33 9 693 693 70. Vous nous rejoignez également sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, à cette heure-ci, vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction de RFI. Vous avez écouté le journal, vous avez peut-être besoin maintenant d'un complément d'information. Eh bien, appelez-nous et on se fait évidemment un plaisir de vous répondre avec nos experts ici à Paris, nos envoyés spéciaux, nos correspondants. Et Jean-Luc, justement, nous a contactés. Jean-Luc qui est à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Bienvenue sur l'antenne. Vous avez des questions, vous, sur la situation au Yémen?
Oui. Comme tout le monde veut bien le suivre, au Yémen, la ville d'Hodeïda, qui a été la cible des bombardements par la coalition sous commandement saoudien, et au moins 150 personnes ont été tuées. Et la question qui se pose, en quoi est-ce que cette ville d'Hodeïda est-elle importante? Et c'était... De nombreux pays lancent des appels au calme, mais qui semblent ne pas être suivis sur le terrain. Mmh. En quelle mesure la communauté internationale peut-elle s'impliquer pour mettre un terme à ce qui se passe quand même au Yémen?
Au Yémen, effectivement, la guerre qui dure maintenant depuis plus de 3 ans. Alors vous dites que la communauté internationale s'implique peu. En tout cas, il y a des appels lancés par le secrétaire général de l'ONU, par Donald Trump, Emmanuel Macron, Theresa May, Angela Merkel. Tous appellent à la fin des hostilités. Bonjour Muriel Paradon.
Bonjour.
Journaliste au service international de RFI. Notre auditeur le rappelait à l'instant. Cette ville d'Hodeïda, théâtre de combats particulièrement violents depuis le début du mois entre les forces pro-gouvernementales et les rebelles outils, même si depuis 2-3 jours, on constate tout de même une accalmie dans les combats. Mais expliquez-nous, et la question de Jean-Luc est intéressante, pourquoi cette ville qui est contrôlée par les rebelles est devenue le principal front de la guerre?
Eh bien, Hodeïda, c'est un port essentiel situé donc dans l'ouest du pays, au bord de la mer Rouge, et c'est par là que transitent les 3/4 des marchandises et de l'aide humanitaire qui arrivent au Yémen, sachant que ce pays en guerre depuis près de 4 ans maintenant subit une grave crise humanitaire. La moitié de la population est au bord de la famine, selon le Programme Alimentaire Mondial, et toute action militaire contre le port menace donc la survie de la population. D'ailleurs, le port est soumis à un quasi-blocus car la coalition sous commandement saoudien qui soutient le gouvernement yéménite accuse les rebelles houthis de recevoir des armes de la part de l'Iran à travers ce port de Hodeïda. Donc c'est aussi une raison pour laquelle ce port est stratégique. Vous savez que le Yémen est devenu un peu une guerre de procuration entre les deux grands ennemis de la région, l'Arabie Saoudite qui soutient donc le gouvernement yéménite et l'Iran qui soutient les rebelles. Alors pour rappel, Hodeïda est aux mains de ces rebelles houthis, des chiites, depuis 2014 et les forces gouvernementales appuyées donc par la coalition sous commandement saoudien tentent de reprendre cette ville depuis le mois de juin et les combats ont redoublé d'intensité depuis 15 jours avant de se calmer ces derniers jours, vous l'avez dit.
Oui, alors Jean-Luc s'étonne du manque de réaction de la communauté internationale, vrai ou faux?
Alors c'est vrai que il a raison, hein, la communauté internationale s'est très peu impliquée depuis 4 ans. C'est une guerre qui a fait quand même 10 000 morts. À part quelques tentatives infructueuses de l'ONU pour tenter de mettre en place des pourparlers de paix, les pays occidentaux comme les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne ont continué à soutenir l'Arabie Saoudite, pourtant accusée de frapper de manière indiscriminée les civils. Hein, il y a eu des bavures et ces pays ont donc fourni des armes aux Saoudiens malgré les nombreuses critiques. Mais il y a eu un changement de ton dernièrement qui s'est opéré en raison d'un événement complètement extérieur, c'est l'affaire Khashoggi dont on a beaucoup parlé sur l'antenne de RFI. Vous savez, ce journaliste saoudien qui a été assassiné dans le consulat saoudien à Istanbul le 2 octobre, eh bien cet événement a considérablement affaibli l'Arabie Saoudite, a terni son image et les alliés de Riyad, comme les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, ont commencé à considérer les autorités saoudiennes un peu différemment. Et résultat, eh bien, les résultats, on les voit. Washington, par exemple, a arrêté la semaine dernière de ravitailler en vol les avions saoudiens qui interviennent au Yémen. La Grande-Bretagne a envoyé lundi, il y a quelques jours, son chef de la diplomatie à Riyad, ainsi qu'aux Émirats arabes unis, c'est un autre pays clé de la coalition. Résultat, un accord pour faire évacuer les blessés houthis vers Oman, c'était une demande des rebelles, et l'annonce de nouveaux pourparlers de paix qui pourraient se tenir à la fin du mois, en tout cas avant la fin de l'année, sous l'égide de l'ONU.
On cite la Norvège pour ces accords.
Alors, on ne sait pas encore. La dernière fois, c'était à Genève. C'est pas encore bien fixé. En tout cas, les combats ont cessé depuis lundi soir. La coalition aurait demandé à ses forces sur le terrain de suspendre les opérations pour donner une chance à cette médiation. On verra si le calme se poursuit, parce que vous savez, l'été dernier, les opérations avaient été suspendues avec cet effort de médiation. Mais comme les négociations n'ont absolument pas abouti, elles ont même avorté en septembre, eh bien, les combats ont repris. Donc, la population sur place, on le est très inquiète, et c'est un calme relatif pour l'instant.
Jean-Luc, a-t-on répondu à vos questions ?
Vraiment, merci beaucoup. Merci vraiment de l'éclairage.
Bah, merci surtout à Muriel Paradon. Vous souhaite une belle journée à Kinshasa. À bientôt, tous les deux. 9h16 ici à Paris. 33 9 693 693 70. Bonjour Delvi.
Bonjour Juan, bonjour à tous et un grand bonjour à votre formidable équipe au standard.
Eh bien, merci de vos encouragements, merci de penser à eux. Delvi, quelles sont vos questions?
Selon une étude publiée par Dimusic Global Earth, les mutilations sexuelles sont en baisse en Afrique. 200 millions de femmes et enfants à travers le monde subissent ces mutilations génitales. Comment cette enquête a été menée par Dimusic Global Earth pour parvenir à cette conclusion, et quels sont les facteurs qui ont permis cette baisse de mutilation sexuelle?
Ouais, bonne question, effectivement. Bonjour Michel Diaz.
Bonjour.
Journaliste à RFI, vous suivez les questions santé pour la rédaction. Alors effectivement, les chiffres sont encourageants, ils sont même très encourageants, notamment quand on voit la situation en Afrique de l'Est, où en une vingtaine d'années, on est passé de 71% de fillettes excisées à 8% en 2016. Comment parvient-on à obtenir de tels chiffres? Comment réalise-t-on une telle étude?
Alors, vous parlez de chiffres de 71 à 8%, on a un peu de mal à y croire comme ça. Je pense que c'est beaucoup plus nuancé, mais ce serait trop long.
Alors.
Voilà, beaucoup relativiser. Donc, les chercheurs, ils ont croisé plus de 90 études nationales démographiques, et de santé dans plusieurs pays. Donc, grâce aux données de l'UNICEF, qui est donc l'Organisation des Nations Unies pour l'Enfance, qui date de 2016. Et il faut rappeler que cette baisse concerne notamment les enfants de moins de 14 ans. Des chiffres qui sont donc la plupart du temps des estimations, comme on vient de le dire, réalisées par des ONG qui sont sur place, qui prennent en charge les femmes et les enfants. Alors, pas nécessairement en Afrique, mais surtout hors Afrique, où les chiffres sont très difficiles à voir.
Alors, on constate tout de même des variations d'un pays à l'autre, et au sein même d'un pays, en fonction des régions. En tout cas, le constat est là. Ces pratiques semblent être en déclin. Quels sont les facteurs qui permettent cette baisse?
Alors, ils sont dus notamment à des campagnes de sensibilisation, un meilleur suivi dans les centres de santé, par exemple. Et puis, selon les pays, l'application pure et simple de la loi, ou encore un numéro vert qui a permis, par exemple, une tendance à la baisse en Guinée-Conakry, avec quand même 98%. Prévalence identique en Somalie. Et malgré cela, on comprend bien, plus de 3 millions de fillettes risquent toujours d'être excisées chaque année. C'est le cas au Mali, d'abord. On reste toujours dans les 90%. 89% pour le Mali, donc. En Égypte, elle vient à peine de passer sous la barre des 90%, en Mauritanie, en Gambie, en Guinée-Bissau, à Djibouti, au Soudan. Et puis, l'on constate une très faible prévalence aujourd'hui au Togo et au Bénin, par rapport aux chiffres évoqués à l'instant, en dessous de la barre des 1%, ou encore le Ghana. Et donc, évidemment, on l'a dit, les chercheurs restent vigilants, restent extrêmement prudents, d'autant qu'apparaît un doute sur la bonne interprétation de ces chiffres. Des mutilations plus tardives sont signalées, souvent à la veille d'un mariage, et n'entrent donc plus dans ces statistiques.
Ah oui, puisque l'étude ne porte que sur les filles de moins de 14 ans, donc les plus de 15 ans ne sont pas prises en compte. Donc voilà. Effectivement, d'où la prudence que vous exprimiez tout à l'heure, effectivement. Delvi, vous avez une autre question?
Oui, on parle beaucoup de l'Afrique, mais est-ce que ces mutilations génitales sont pratiquées dans les autres régions à travers le monde?
Ah, Michel Diaz.
Ben oui, Delvie, vous avez tout à fait raison de poser cette question et je pense qu'elle est presque la plus importante parce qu'on parle beaucoup de l'Afrique depuis de nombreuses années. Mais malheureusement, oui, dans la plupart des pays, pourtant, l'excision est illégale. Mais la pression sociale reste une vraie difficulté pour ce qui reste un problème de santé publique. On parle souvent des jeunes filles donc excisées sur ce continent. Les chiffres sont inquiétants, mais ils existent. C'est le principal, on peut dire. Les pays ont décidé de coopérer en permettant, par exemple, d'interroger les populations sur la prévalence de l'excision et d'autres formes de violences faites aux femmes et aux enfants. Mais ce n'est malheureusement pas le cas en Asie et au Proche-Orient, là où la prévalence est beaucoup plus importante. Seuls les témoignages, je vous le disais au début, de certaines ONG qui accompagnent ces femmes traduisent la terrible réalité. En Asie et en Indonésie notamment, où le nombre des victimes est estimé évidemment à 70 millions, aucune donnée scientifique n'est donc possible. Pourtant, des témoignages de femmes viennent d'être signalés au sud de la Thaïlande. D'autres régions comme au Daghestan et en Tchétchénie s'ajoutent à la liste des pays pratiquant l'excision. Une des ONG qui s'intéresse au sort de ces femmes et jeunes filles, elles sont peu nombreuses et on le comprend, Sayo, vient de révéler des cas émanant de la diaspora Bora d'Inde et du Pakistan. Un phénomène à grande échelle qui pourrait s'étendre jusqu'en Angleterre et aux États-Unis. Donc c'est un peu en souterrain, donc c'est très difficile à évaluer.
Et au Proche-Orient.
Et donc le avec le Yémen, justement, on en parlait tout à l'heure, les sociologues s'accordent à dire que les mutilations sexuelles atteignent au moins une prévalence de 70%, ça paraît faible au regard de ce qu'on vient de dire avant avec l'Afrique, mais ça reste toujours des estimations. Wadi, une ONG allemande, a découvert des cas d'excision au Kurdistan irakien et en Iran, et d'autres témoignages rapportent même que des courants musulmans recommandent l'excision en la comparant tout simplement à la circoncision masculine.
Merci beaucoup Michel Diaz d'être venu répondre à Delvie, à qui nous souhaitons une bonne fin de semaine, évidemment à l'écoute de RFI. Bonne journée Delvie, merci Michel Diaz. 9h22 à Paris, nous avons contacté Guillaume Thibault, correspondant permanent de RFI à Dakar. Bonjour Guillaume.
Bonjour à tous.
Alors, beaucoup de réactions hier lors du débat consacré sur cette antenne à cette heure-ci, à cette possible amnistie que le président sénégalais Macky Sall pourrait accorder à ses deux adversaires politiques, Khalifa Sall et Karim Wade. On sait que l'opposition dénonce un chantage. On a suivi vos reportages, Guillaume Thibault. Mamadou nous a appelé. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Mamadou, on le rappelle, mais ça sonne dans le vide maintenant. Alors, peut-être qu'il ne souhaite plus poser de vive voix sa question. En tout cas, Mamadou nous a dit, le président peut-il amnistier Khalifa Sall alors que celui-ci n'a pas encore été jugé par la Cour suprême? C'est une bonne question, Guillaume Thibault. Une amnistie peut être proposée à n'importe quel moment, mais faut dire, la procédure est particulière.
Exactement, Juan. La décision peut en effet être prise à tout moment, que la procédure judiciaire soit en cours ou pas, ne change rien dans le cas de Khalifa Sall. On attend en effet une décision de la Cour suprême qui doit trancher les questions de droit. Difficile aujourd'hui d'ailleurs d'avoir une date précise dans ce dossier. L'amnistie, si elle est décidée par le chef de l'État, est une procédure particulière car elle ne dépend pas seulement de lui. Souvenez-vous, Macky Sall a gracié Karim Wade en juin 2016, une décision actée par décret présidentiel. S'il a été libéré, le fils de l'ex-chef de l'État reste condamné pour les faits qui lui sont reprochés. Une amnistie efface au contraire la procédure, elle efface les actes. Il est d'ailleurs interdit de parler de ces faits par la suite. Et si le chef de l'État est à l'origine de l'amnistie, il doit par contre passer par l'Assemblée nationale en proposant une loi qui sera donc actée ou pas par le vote des députés. Si le vote est favorable, si la loi est votée, le président doit alors la promulguer.
Alors Mamadou pose une question qui a souvent été évoquée hier durant le débat. Pourquoi le président Macky Sall attend-il d'être réélu pour offrir l'amnistie à ses deux adversaires?
Coup de bluff, appel du pied, stratégie pour calmer la part de l'opinion publique qui estime que le procès de Khalifa Sall est politique, ou de celle qui estime que Karim Wade a été forcé à l'exil au Qatar. Macky Sall cherche-t-il avec cette annonce à redorer d'une certaine façon son image? Difficile de comprendre cette déclaration du président qui a surpris tout le monde ici, car le chef de l'État a toujours mis des distances avec les questions judiciaires. Il n'a quasiment jamais évoqué ces deux dossiers. Il est vrai que le chef de l'État accorde peu d'interviews à la presse sénégalaise. Pour le camp de Karim Wade, cette annonce du chef de l'État a été très mal perçue. C'est une honte, a notamment déclaré sur notre antenne Amadou Sall, l'ancien ministre de la Justice, cadre du Parti démocratique sénégalais. Cette proposition ressemble à un chantage, a de son côté estimé Moussa Tine, le conseiller politique de Khalifa Sall. Alors pourquoi attendre pour les proches de Karim Ouad et de Khalifa Sall. Macky Sall ne veut pas les affronter car ce sont aujourd'hui les deux poids lourds de l'opposition.
Et on aura certainement l'occasion de prolonger le débat dans un bon quart d'heure maintenant lors de la libre antenne. Vous commentez l'actualité de votre choix. Appelez-nous, vous êtes les bienvenus. 33 9 693 693 70. Merci Guillaume Thibault, correspondant permanent de RFI à Dakar, où vous nous écoutez sur les 92 FM et où il est 8h25. Allez, la dernière question du jour et de la semaine, puisque nous sommes vendredi. Bonjour Fred.
Bonjour Rouad.
Vous êtes à Brazzaville. Des questions sur l'élection présidentielle qui s'est tenue il y a maintenant 10 jours à Madagascar.
La mission d'observation électorale de l'Union européenne a dénoncé des infractions sur certains candidats lors du premier tour de l'élection présidentielle. Alors, que risquent les candidats concernés en cas de délit avéré ?
Ah, c'est vrai que dans ses premières conclusions sur l'observation de l'élection présidentielle, la mission de l'Union européenne a indiqué que 5 candidats ont commis des infractions en distribuant de l'argent à leurs partisans. Bonjour Sarah Tetto.
Bonjour Juan, bonjour Fred. Alors effectivement, ce qu'ils risquent, c'est ce qui est inscrit dans l'article 233 de la loi organique sur le régime général des élections. Au sujet de l'achat de vote, 2 choses sont indiquées. 1, que tout acheteur et tout vendeur de suffrages sont condamnés chacun à une amende égale au double de la valeur des choses reçues ou promises. Donc finalement, il s'agit de rembourser le cadeau au double de son montant. Et 2, et c'est là que la sanction est la plus dommageable, que toute personne qui, à l'occasion d'une élection, a acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque est privée de ses droits civiques et interdite d'exercer aucun mandat public électif pendant 5 à 10 ans. Oui. Autrement dit, adieu le statut de président de la République.
Alors seulement, Sarah Tetto, correspondante de RFI à Madagascar, seulement, et c'est là peut-être que les choses se compliquent, c'est qu'il faut pouvoir prouver qu'un candidat a bel et bien corrompu des électeurs.
Exactement, la Haute Cour constitutionnelle, qui est la seule habilitée à juger les contentieux électoraux, rappelle que pour porter plainte, il faut être électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription où il y a eu achat de vote et avoir voté, ou être un candidat à l'élection, ou être un délégué de candidat de la circonscription concernée par l'achat de vote, ou être un observateur national. Il faut ensuite monter un dossier complet, avec preuve évidemment à l'appui. Et dans quel délai ? Eh bien jusqu'au jour de la publication des résultats provisoires par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, soit avant ce soir. La législation n'autorise donc pas la mission d'observation de l'Union européenne à déposer plainte contre les candidats qui ont acheté des voix, et ce n'est pas notre rôle, a d'ailleurs rappelé les chefs de la mission. C'est donc aux observateurs nationaux, aux candidats adverses ou aux citoyens qui auraient des preuves de déposer plainte. Et là encore, d'après les derniers échanges que j'ai eus ce matin avec la société civile, il y a peu de chances que cela arrive. La dénonciation ne fait pas partie de notre culture, m'a rappelé un chef de mission d'observation nationale.
Oui. Les résultats sont attendus. Pour l'instant, ce ne sont que des résultats provisoires. Ils sont attendus pour quand ? A-t-on une idée, Sarah Tetto ?
Oui, exactement. Alors normalement, ça devrait être dans la journée. Il y a 20 minutes, les résultats bureau de vote par bureau de vote de la CENI déclaré que 93% des bureaux de vote avaient été dépouillés. Donc la CENI devrait aujourd'hui faire une annonce des résultats provisoires et d'ici 9 jours au plus tard, la HCC devra, elle, promulguer les résultats officiels de l'élection.
Ouais, des résultats provisoires qui sont déjà contestés par plusieurs candidats, et notamment par Ange Razoel, dont les tendances, d'ailleurs, le donnent en tête. On suivra évidemment tout cela avec vous, Sarah Tetto, correspondante de RFI à Madagascar. Je sais que Fred avait une dernière question à vous poser. Malheureusement, on est obligé de rendre l'antenne. On va retrouver dans quelques instants le service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin, et tout de suite après, évidemment, la libre antenne, l'occasion pour vous tous de commenter l'actualité de votre choix, de revenir sur tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours. Je vois qu'une auditrice souhaite réagir sur la situation au Yémen. On en parlait il y a quelques minutes avec un auditeur qui s'appelait, c'était Jean-Luc, qui posait des questions à Muriel Paradon. Eh bien, on en parlera, tous les sujets nous intéressent. Il y a également de la République démocratique du Congo, l'opposition qui divorce, la polémique au Gabon sur la Cour constitutionnelle, les sanctions américaines sur la Mauritanie. Voilà quelques-uns des sujets qui nous arrivent au standard. On en parle dans 10 minutes.